cobuzz.com. Rencontre par Yves Riesel.
Ariana, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler de votre nouveau disque. Nous sommes ici à Marseille à l'issue d'un concert que vous avez donné avec Ferran, votre frère. Et ce disque est le troisième enregistrement que vous avez réalisé en solo, je dirais, oui, sous votre propre nom. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ce nouvel album est différent, et très différent, je pense, des autres?
Oui, c'est vrai, avec Bellaterra, c'était très lié à ma jeunesse, à les chansons que je faisais de l'adolescence et toute la jeunesse. Et c'est un album très, presque innocent, non? Dédié à l'amour, avec beaucoup de chants d'amour, des poètes de Antonio Machado, Garcia Lorca, Miquel Martí Pol, beaucoup de poètes, Joan Salvat Papasseit, des poètes presque très romantiques, non? Il y a un côté très romantique dans Bellaterra. Et le deuxième, c'est un disque où je vais dans des autres, je m'éloigne un peu de la Méditerranée, je vais plus vers le nord aussi, avec des chants irlandais, avec des couleurs peut-être plus nordiques. Et j'aime aussi dans Pivot la mélange des langues. J'avais très envie de chanter en italien avec la prière de Saint François d'Assis. Et en fait, Pivot, c'est un disque plus mystique parce qu'il y a San Juan de la Cruz aussi, il y a aussi Garcia Lorca, il y a Rumi, il y a Ferran et Peter qui participent
déjà dans ce deuxième album.
Oui, et il y a aussi Javier Mas, un guitariste fantastique que maintenant il est avec Leonard Cohen, et il y a Pedro, il y a Dimitris, il y a Björn, David aussi. Alors c'est un groupe, il y a plus d'improvisation, des autres couleurs, non? Autres mélanges.
Alors ce nouvel album paraît chez ECM, avec une prise de son absolument magnifique.
Merci.
Cet album relie donc le sud et le nord. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu... Comment vous avez construit ce grand écart?
Écoute, avec Peter, on s'est connus à Bâle.
D'abord, oui, il faut dire que cet album, c'est un album de vous, Ariana, et également de Peter Udland Johansen.
Qui est norvégien.
Qui est norvégien. qui
un vrai viking.
Un vrai viking, oui.
Et on s'est retrouvés à Bâle. On a fait tous les deux nos études de musique ancienne avec le chant. Et lui, il vient aussi d'une famille musicale. Son père est chanteur et violoniste. Et sa mère a toujours chanté. Et il faut dire qu'en Norvège, la musique est restée très liée à la vie. On chante comme on souhaite, non? Un peu, on chante dans chaque occasion, dans les fêtes, dans les cérémonies. Il y a des chants gais, il y a des chants tristes pour accompagner chaque situation, non? Et à Bâle, dans une des fêtes d'étudiants, Petar a commencé à chanter des chants norvégiens d'une mélancolie que je me suis dit, waouh, c'est comme les chants catalans que ma mère me chantait toujours, non? Et la Dama d'Arago, le Testament d'Amelia. Et là, on a commencé à trouver les connexions, en fait, entre les deux nations qui sont tellement éloignées, mais qui sont très proches. Parce qu'il y a un caractère mélancolique, il y a aussi la mer qui connecte. C'est des chants souvent dédiés à la mer ou des voyages. Il y a aussi dans la musique norvégienne comme la musique catalane un lien avec la musique médiévale. Alors c'est une musique, si tu veux, la musique traditionnelle norvégienne et catalane, elle vient de très loin, mais elle a survécu. Parce que c'est des très belles mélodies qu'on les a chantées toujours, tu vois. Comme en Catalogne, Al Mestre, qui est une mélodie magnifique que mon père jouait toujours à la viole de gambe. Toujours instrumentale, non? Et moi, j'avais très envie de faire ça, chanter.
Alors, l'album s'appelle Irundo Maris.
Irundo Maris.
Est-ce que vous avez beaucoup joué en scène ce programme avant de l'enregistrer?
Oui. Ça, on a eu une grande chance parce que, en fait, ce projet de dialoguer entre le Nord et le Sud vient de très loin. On a fait nos premiers concerts en 2008 et on avait déjà donné une maquette à Manfred parce que c'était un rêve pour nous de travailler avec Manfred Eicher. Moi, je connaissais Manfred de Rolf Lislevand et Lena Tulve. Et j'avais beaucoup aimé cette expérience de travailler avec lui. Et avec Peter, on a eu plusieurs rencontres. Et il était toujours très enthousiaste. Et il est tellement pris, non? Comme mon père, il a tellement des projets avec Chick Corea, avec Kay Jarrett. Que trouver un trou pour nous, c'était... Bon, c'est arrivé l'année passée, mais c'était très bien.
À quel moment, a-t-il dit « Ok, on y va » Et est-ce que vous pensez que c'était parce qu'il avait vu le projet s'affirmer
Il avait dit qu'on l'enregistrerait en 2010. Et après, ça n'a pas marché. Alors, on était très tristes et on a passé au 2011, janvier 2011. On est allé à Istanbul et à Paris. Pour Philippe Maillard. Alors, on a changé encore des choses, on a amélioré encore des choses, et finalement, quand on est arrivé à l'église à Saint-Gerold, en Autriche, pour faire le disque, on était très préparés et on a voulu enregistrer le disque tous ensemble. Alors, le disque s'est enregistré comme un disque de musique ancienne, avec quelques micros, et nous, on est autour, tous les cinq. Michel-Ange Cordero, David Mayoral, Sveinung Lilleheyer, Peter et moi. Et on joue ensemble. Et ça, en 3 jours, on l'a fait. C'était très vite. C'était dans cette petite église où Manfred Eicher a fait, par exemple, l'Officium de Gilliard ensemble avec Jan Garbarek. Il a fait aussi des choses de Arvo Pärt. Il y a ensemble là, c'est une acoustique naturelle très belle, pas trop réverbérante. Alors pour les chants avec beaucoup de texte, c'est bien, ça, on comprend bien le texte. Et on a voulu faire vraiment un son, en guillemets, classique. Parce que Manfred, quand il fait un enregistrement studio, c'est studio total. Mais quand il enregistre à l'église ou dans une belle salle, il veut même pas comprimer, rien. Il cherche la pureté, la naturalité, le son plus authentique de l'instrument et de la voix, non ? Et ça, c'était...
Et quel directeur artistique est-il, alors ? Est-ce qu'il est autoritaire ? Est-ce qu'il est interventionniste ?
Alors, il est vraiment, comme c'est sa musique, il est un homme du jazz qui improvise tout le temps. C'est une personne qui n'a pas de portable, il improvise jour par jour. Et il est très fier de sa liberté et il respecte beaucoup aussi ta liberté parce que pour lui c'est essentiel. Alors c'est quelqu'un qui écoute avec une intensité et quand il te dit une chose, c'est très important parce qu'il dit très peu de choses, mais les choses qu'il dit, il t'ouvre des portes. Et là, c'est vrai qu'il nous a dit, écoute, essaye de chanter d'une autre manière ou essaye de faire une autre voix ou faire plutôt dans cette direction. Et pour Peter et moi, c'était vraiment une découverte parce que avec lui, on se sentait d'accord. On essaye. On n'avait pas peur parce qu'on était guidés par lui. Alors tu te laisses guider, tu ouvres cette porte et...
Alors le résultat est vraiment magnifique, c'est un disque très, très original, j'ai trouvé, avec d'abord très riche aussi, je crois qu'il y a 17 tracks, donc c'est très disque très généreux avec des titres instrumentaux et d'autres choses tout à fait étonnantes. Enfin, c'est vraiment à découvrir peut-être avec les yeux fermés sans regarder le livret d'abord et puis ensuite en regardant ce qu'on écoute. Bon, évidemment, il y a des pièces qu'on reconnaît, hein, qui étaient même pour certaines dans le répertoire de votre mère. Hein. Et puis, il n'y a aucune viole de gamme sur ce disque ?
Non, mais il y a le Haring Fiddle, qui est très proche de la viole de gamme.
Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une guest star non créditée sur le disque.
Solenne in quam fall forsin.
Ariana, aujourd'hui, vous avez donc cette carrière de soliste où vous chantez avec votre compagnon, et puis vous avez évidemment votre participation à différents groupes, et puis le travail que vous continuez à faire avec Jordi. Comment un peu vous voyez les choses évoluer, et quels sont les... Je dirais, on voit bien que d'une certaine manière... Et c'est tout à fait naturel. D'une certaine manière, vous êtes dans les traces de votre mère, d'une certaine manière, et est également très différent. Et j'ai envie de dire comment à la fois vous pouvez vous en détacher et quelle fidélité et comment vous voyez la fidélité à cette trace.
Oui, ça c'est un thème. Comment dire? D'un côté, c'est vrai, ma mère et moi, j'ai un timbre, si tu veux, et peut-être plutôt quand je fais de la musique ancienne, et les chants que j'ai fait beaucoup avec elle, je suis imprégnée d'elle.
Mais
non,
ce n'est pas la même chose
pourtant. Non, parce qu'elle a toujours fait attention, parce que chacun doit trouver sa voix et sa manière de chanter. Et par imitation, tu apprends plein de choses, mais... À la fin, tu dois trouver ta manière.
Est-ce que vous avez travaillé le chant avec elle? Parce que vous disiez que vous avez travaillé évidemment à Bâle.
Oui.
Et donc, vos parents vous ont confié à des maîtres.
Oui.
Et eux-mêmes étaient quand même des sommités, bien entendu, dans le domaine de la musique ancienne. Oui. Et alors, de quelle liberté avez-vous joui, en fait?
Écoute, ma mère, ça, elle a fait beaucoup d'attention. Et je le suis très remerciante parce que... Elle a tout de suite compris que je ne pouvais pas étudier le chant avec elle, parce que c'était trop intime. Alors elle m'a trouvé une prof qui était aussi une collègue à elle, du même âge, Maria Dolores Aldea, qui a été élève de Gérard Suzet, et qui est encore ma prof, qui est une professeure fantastique, parce que c'est une femme qui t'aide à trouver ta voix. Elle te donne une technique très saine, base pour tous les styles, mais après toi tu dois faire ton style. Mais elle m'a encore, je la vois de temps en temps pour les choses nouvelles ou de musique contemporaine ou qui exige une autre technique, non? Et mais elle m'a beaucoup aidé à trouver mon propre chemin et à sortir le meilleur de toi, non? Et de trouver ta voix et sans la trafiquer trop, non? Parce que c'est vrai que le chant, c'est un instrument, c'est plus facile parce que c'est à l'extérieur. La voix, c'est à l'intérieur et sortir cette voix, c'est un procès quelquefois très lent, non? Et il change aussi pendant ta vie. Et ma mère, elle va être toujours présente. Moi, je vais toujours la honorer et je vais toujours la tenir très présente et... Tout ce que j'ai appris d'elle, je vais le garder comme un trésor. J'aurais bien aimé apprendre plus d'elle, beaucoup plus. Il y avait encore plein de choses que je devais apprendre. Et malheureusement, je dois les apprendre maintenant toute seule. Mais c'est aussi... La vie, c'est comme ça, non? Il y a un moment que tu fais tout seul, non?
Est-ce que la harpe a été votre premier instrument ?
Le piano. Parce que à l'époque où on habitait, il n'y avait pas de prof de harpe, mais il y avait une prof de piano fantastique. Et j'ai commencé à 8 ans avec elle. Et j'aimais tellement cette prof que j'ai fait harpe et piano jusqu'à 17 ans. Quand j'étais toute petite, je faisais déjà des petites compositions. C'était au piano, toujours. Et elle m'a beaucoup... C'est une professeure fantastique parce qu'elle stimulait beaucoup ses élèves. Elle, toujours quand elle voyait que tu avais un talent pour improviser ou pour composer ou pour faire... Elle te amenait vers cette direction et elle me disait « Oui, fais ça et porte-moi la prochaine semaine une petite composition sur ce thème ou sur cette tonalité avec des rythmes comme ça. » Et j'adorais faire ça.
Donc vous avez commencé à composer très jeune, en fait.
Oui, mais toujours très libre, pas à écrire, toujours d'oreille.
Très lié à l'instrument aussi,
oui,
toujours.
Oui.
Et alors à quel âge avez-vous commencé la harpe ?
À 10 ans. Et je me rappelle parce que à l'époque il y avait beaucoup de répétitions à la maison et ma mère, je me rappelle très bien de ça, elle a chanté le Lamento de la Ninfa, elle était en train de répéter ça de Monteverdi et j'ai entendu ça, moi j'avais, on était à Barcelone déjà, j'avais 12-13 ans et je me suis dit waouh, ça c'est une musique magnifique, si ça c'est musique ancienne, je vais faire que musique ancienne. Et j'ai passé des semaines d'improviser sur cette basse ostinato, cette passacaille en la mineure. Et c'était souvent comme ça. J'entendais un canarios ou une folia. Et j'allais à la chambre, je sortais le thème et j'ai passé des heures comme ça en cherchant. Et Peter, il m'a raconté que lui faisait aussi pareil. Mais avec son père, quand il était petit, parce que Peter venait plutôt, il était surtout pianiste. Alors aussi, quand il aimait écouter une pièce, tout de suite, il trouvait la tonalité. Oui, c'est drôle. On a eu des démarches pareilles.
Pareil, similaires.
Similaires. Pareil. Et si aussi d'une famille musicale où la musique était très présente, non ?
On se retrouvera sans doute au Festival de Fonfroide, qui a lieu comme chaque année.
Super.
Et quels sont les grands programmes qui sont donnés au Festival cette année ?
Écoute, il y a le Jeanne d'Arc, non ?
Qui vient de sortir en album,
oui,
par ailleurs.
Et ça va être le concert final. Je crois que ça, c'est un projet très important pour mes parents et pour mon père. Et tout le festival va être dédié à Moncé. On va en faire aussi le 17. On va faire le programme du temps et de l'instant, transformé. Et en fait, ça va être la première fois que je vais jouer avec mon père depuis 2008. Alors, ça va être aussi une grande émotion de se retrouver dans la musique et sur scène. Ça va être aussi très, comment dire, très triste parce qu'il y aura Moncé, oui, l'absence de Moncé, la présence, mais c'est...
Ay, 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 puff, puff.
Cobuzz.com Rencontre par Yves Riazel.